Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu sur le 102.2 ou sur radiocanu.org partout ailleurs, évidemment, en dehors de Lyon. Donc 22h, c'est la causerie, hein, comme tous les dimanches soirs. En compagnie ce soir, je suis perdu, en compagnie ce soir de Clara.
Bonsoir.
D'Emka.
Hello tout le monde.
De Fab.
Bonsoir. Et de Jean-Yves qui est tout perdu pour faire l'ouverture.
Oui.
Mais alors dis-nous, comment on fait pour nous joindre?
Oui, eh bien comment on fait? Alors, on peut nous envoyer un mail à la causerie canu, en minuscule et tout attaché, lacauseriecanu@gmail.com. Et vous pouvez évidemment aussi réécouter les émissions, les podcasts, machin truc, sur le blog de l'émission. C'est à blogs, donc blog au pluriel, .radiocanu.org/lacauserie. Vous retrouvez aussi, je crois, les podcasts sur différentes plateformes d'écoute musicale, tout ça, tout ça. On va éviter de leur donner leur nom. Et puis aussi sur un réseau socio-commercial. Voilà. Pour préciser quand même les conditions de cette causerie, évidemment, c'est encore une causerie. Ça, c'était l'ordinateur qui a fait un petit bruit. Donc, c'est bien une causerie encore confinée, évidemment, vu la situation et le couvre-feu auquel nous avons droit. Donc, c'est enregistré samedi 27 février aux alentours, même à 15h30, pile poil.
Pile.
Voilà.
Voilà.
On ne vous dira pas à quelle heure on termine, parce que des fois, ça peut être très long. Non, je déconne.
Et il y a des petits bouts de bruit d'ordinateur.
Voilà, c'est ça.
C'est la preuve qu'on est vraiment dans les conditions du direct.
En direct.
Pas 20 fois l'émission. Hein.
Eh ben, je crois que j'ai tout dit. Et ce soir, nous avons deux causeurs qui vont nous causer. En premier, c'est MK qui va nous parler de la situation des universités et un peu plus, voire même beaucoup plus, des étudiants et des étudiantes.
C'est ça. Bon, moi, je vais commencer mon sujet. Hein. Hey les amis, comment ça va-t-il bien? Ça y est, les beaux jours sont arrivés et c'est la folie dans les rues. Hein. Éco-cup à la main, rempli de bière et on s'amasse sur les quais et on fait fi de ce qui se passe actuellement et de ce qui nous mine le moral en fait. Hein. Et tout ça, en tout cas, c'est ce que j'aperçois quand j'observe tout autour de moi. Hello, Elite, ah, moi, Lolita. Pardon, je me perds, je suis un peu comme Jean-Yves, je suis à l'ouest aujourd'hui. Non, je bug tout à fait. Non, c'est quand j'observe autour de moi, c'est vrai qu'on voit pas mal des gens qui s'amassent et pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Là n'est pas la question. Et puis surtout quand on entend ce qu'on entend à la télé, hein, les interviewés, en général, on parle des jeunes, voilà. Et par extension, les étudiants qui s'amassent et qui font n'importe quoi. Le bouc émissaire est tout trouvé et on essaye vite de ne pas regarder au-delà, c'est-à-dire sur la situation gravissime de cette population, en fait. Évidemment, hein, c'est plus facile de fermer les yeux et de s'empêcher de voir la réalité en face, chacun se préoccupe de son petit confort et scande haut et fort le malheur de ne pas pouvoir aller au ski et utiliser par exemple les remontées mécaniques. Alors oui, je vous l'accorde, je fais des raccourcis hein, rapides, et tout n'est pas si tranché que ça, mais un peu de vrai dans ce que je dis. Là, vous vous dites par exemple, mais pourquoi il parle de ça? Où est-ce qu'il veut en venir? En fait, comme il a été dit pour mon lancement de mon sujet, c'est sur la précarité et la pauvreté grandissante des étudiants dont je vais parler. Mais au préalable, en fait, je voulais dépeindre un contexte actuel. Pardon. Donc, à en croire les médias classiques, hein, les étudiants ne sont pas trop à plaindre en vrai. Si ce n'est en fait qu'ils ne profitent plus de loisirs et de la culture. En fait, tout simplement, ça serait ça qui minerait leur morale. Comme dit un certain roi de la Macronie, il est difficile d'avoir 20 ans en 2020 et en 2021, puisque ça continue encore. Alors, il faisait référence, hein, et ne vous détrompez pas, à leur temps de loisirs. Il prenait en effet des exemples un peu bateaux, hein, du style bien loin de la misère actuelle que subissent de plus en plus cette population. Selon lui, ils vivent un sacrifice terrible, des examens annulés, de l'angoisse pour des formations, de l'angoisse pour trouver un premier job. Quand on est jeune, on fait la fête, on a des amis. Ainsi avait parlé notre grand seigneur en finissant par dire dans cette fameuse interview « Je ne donnerai jamais de leçons aux jeunes ». Comprenez ainsi, rien à battre de vous, je ne vous donnerai jamais de sous. Voilà, à croire qu'en fait les jeunes et les étudiants, bon, je vais revenir un petit peu après sur cette différenciation entre jeunes et étudiants, hein, tout de suite après, qu'en fait les jeunes ne vivent que d'amour et d'eau fraîche, de concerts, de festivals, de cinéma, de salles de sport, de centres commerciaux par exemple, ou d'escape game, etc., etc., etc. Et on occulte tout le reste, c'est-à-dire l'alimentation, le logement, les vêtements, l'apprentissage et les revenus, en gros les besoins primaires. Ensuite, pour revenir donc aux jeunes et aux étudiants, hein, peut-on les confondre? Oui et non. Juste quelques chiffres. Hein. Bon, les derniers chiffres, ça date de 2019. Les jeunes, ça va de 18 à 29 ans. Pour le coup, on est plus ou moins d'accord. Donc, 80% des jeunes de 18 ans, en fait, sont étudiants. Toutes filières confondues, hein, ce soit étudiants, élèves, en formation. Donc, en fait, en soi, on peut dire qu'effectivement, un jeune est un étudiant. Par contre, ensuite, voilà, il y a une bascule qui se fait ensuite à 21 ans, donc soit 3 ans plus tard, soit un grade plus tard, on tombe à 44%. Voilà, c'est ouf. Hein. On pourrait, donc, il y a, à 21 ans, il y a seulement 44% qui continuent leurs études.
Mais ça, c'est bien que tu le signales parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tout le monde est étudiant jusqu'à 30 ans. Sauf que non, en réalité, en France, on est un pays où majoritairement… Effectivement, à passer le bac plus 2 ou 3, les gens ne vont pas plus loin, en fait.
C'est ça. Puis j'en reviendrai après, justement, pourquoi, en fait, on s'arrête à des études très courtes.
Ouais.
Et à 25 ans, hein, donc si on respecte plus ou moins l'ordre des grades, le fameux LMD, hein, licence, master, doctorat, ou les études de 3, 2 et 8, à 25 ans, donc c'est seulement 12%. À nuancer, bien sûr, hein, on n'est pas tous obligés de faire des longues études. Hein, on peut très bien faire un bac plus 2, un bac plus 3, sans pour autant être amoindri et se sentir plus nul que les autres. Voilà.
Je me permets.
Oui. Tu peux rajouter, je sais ce que tu vas dire, mais vas-y.
Alors, vas-y. On peut même faire bac moins quelque chose. Vous êtes tout aussi respectable, ça s'appelle ça.
Exactement. N'était pas.
Non, non, mais c'était juste. Voilà. On parle aussi, derrière nos micros, on parle aussi d'où on est nous-mêmes, en fait. Hein. Non, non, mais enfin, voilà, je fais partie de ces gens-là.
Non, mais c'est tout à fait respectable. Et puis, on peut parler aussi de multiples exemples de reprise d'études plus tard dans la vie. Voilà, rien n'est figé. Et là, c'est pas du tout une critique en soi hein, sur l'âge des études ou sur la longueur des études. Du coup, je vais revenir un petit peu sur mon sujet. Hein. C'est sans surprise, malheureusement, que vous allez apprendre que la situation liée au Covid-19, depuis un an, a massivement plongé en fait, des milliers, voire des dizaines de milliers d'étudiants dans la précarité et la pauvreté. Faut savoir que la pauvreté, malheureusement, est un cercle vicieux, une difficulté en fait, qui entraîne une autre et qui met à mal en fait, du coup, pour eux les études. Déjà, ça commence très souvent par la pauvreté des familles et déjà, celle-ci gagne du terrain. Malgré donc une démocratisation de l'accès aux études, hein, avec ces fameuses décisions politiques de l'université pour tous. Mais en fait, c'est juste du blabla pour essayer de mettre tout le monde, pour avoir des très bons chiffres d'étudiants qui vont à l'université. Mais en vrai, ça cache un petit peu, c'est l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. Donc, comme je disais, donc, malgré une démocratisation de l'accès aux études, les montants des bourses, par exemple, qui ne suivent pas, le nombre de bourses disponibles aussi, tout ça reste insuffisant pour répondre en fait à la quantité de demandes. On ouvre des places, effectivement, dans les universités, mais derrière, le budget ne suit pas. Et du coup, la première conséquence de cet appauvrissement des familles, c'est que pour beaucoup de jeunes, les études supérieures sont un luxe que leurs parents ne peuvent tout simplement pas leur offrir. En effet, pour celles et ceux qui accèdent aux études supérieures, le choix de la filière n'est pas un choix libre, mais plutôt contraint et orienté. Les jeunes sont nombreux à faire le choix d'un parcours d'études plus court et directement professionnalisant. D'ailleurs, j'ai trouvé ça dans mes recherches à ce sujet, hein. Ça date de décembre 2017. C'est donc un délégué général aux droits de l'enfant, Bernard De Vos, écrivait en fait dans un texte que cette restriction du choix commence déjà dans la primaire et dans le secondaire. La relation en fait entre la relégation scolaire et la pauvreté en fait, elle est liée, elle est établie. Déjà, on sait sur quoi on va s'orienter déjà dès la primaire.
On le voit même oui, pas dans les écoles ou autres. Il suffit de se balader un petit peu dans des quartiers dits populaires, pauvres, appelez ça comme vous voulez, certains disent banlieues, pour voir que le nombre d'enfants par classe, par exemple, est totalement différent de ce que vous pouvez trouver dans l'école du 6e à Lyon, par exemple. Voilà, et que rien que ça, déjà au départ, ça facilite pas le rapport à l'école, le rapport à l'apprentissage, quoi. Quand on est 35 dans la classe d'un côté et 18 de l'autre, forcément, on ne vit pas les mêmes vies, quoi.
Tout à fait. Voilà, on n'est pas toutes les chances du même côté. Il n'y a pas vraiment d'équité là-dedans.
Bah oui, et puis enfin, c'est toujours. En fait, alors, encore une fois, après, il faut toujours se méfier des grands enseignants, parce que dire que forcément pauvre, tu vas forcément t'arrêter un CAP, etc., ce n'est pas totalement vrai non plus. Donc, c'est toujours compliqué. Mais que, en fait,
Majoritairement.
oui, c'est ça, majoritairement. Mais ce qui est toujours amusant à constater, c'est que en fait, on a l'impression que, en tout cas, c'est un peu le roman républicain et tout ça, c'est que l'école, en fait, d'un coup, elle va mettre tout le monde à égalité. Mais en fait, enfin, éliminer le pan économique, social de cette question, en fait, c'est se mentir, en fait. C'est fondamentalement se mentir. Et je dis pas que c'est toi qui ce que tu es en train de faire, hein, mais c'est ce roman national où finalement, on est tous égaux parce qu'on a accès à l'éducation. Non.
Non, c'est une illusion en fait, tout
Et
simplement.
oui, c'est ça en fait, le problème il est là, c'est que oui, c'est une illusion.
Et c'est ce que je disais juste avant, en fait, on a l'impression que les étudiants font des choix derrière post-bac ou même au lycée, mais en fait, c'est des choix qui sont contraints,
Mais
tout
bien sûr.
simplement, et orientés.
Les gens qui
Donc,
peuvent pleinement tout choisir dans leur vie, je pense qu'ils sont très peu en fait.
c'est ça, exactement. Et faire des prestigieuses études, hein, pour un avenir donc radieux, bah, en fait, c'est plus souvent une question de moyens économiques que de talents individuels. Voilà, tout simplement. En conclusion, un enfant dont les parents, alors là aussi, je ne fais pas un grand ensemble, hein, mais en conclusion, un enfant dont les parents sont pauvres sera bien plus à risque de se retrouver dans des filières professionnelles.
Parce que je voulais juste dire, ajouter un truc, pardon, mais c'est aussi l'accès à la culture. Les gens oublient ça. Mais moins on a d'argent dans une famille, et moins on a accès à la culture, au sens large du terme. Hein. Ça, aujourd'hui, on en parle beaucoup de la culture, mais on se rend compte que finalement, les gens qui sont en manque de culture, c'est souvent des gens qui avaient les moyens de la consommer. Et j'en fais partie, hein, donc je ne fustige personne. Mais en fait, l'accès à la culture, c'est quelque chose d'important parce que quand on est dans un environnement où on va écouter de la musique, acheter des CD, aller au cinéma régulièrement, aller dans des musées, faire des concerts ou aller au théâtre ou à l'opéra, on a forcément un bagage culturel qui est beaucoup plus complet que quelqu'un qui n'a pas accès à ça. Et donc, qui va devoir, lui, l'acquérir que par l'école. Et là, il y a une vraie complexité parce qu'il y a au départ, sur la ligne de départ, bah déjà, il y a un bagage culturel très différent qui fait que quand on dit on part tous égaux, bah c'est pas vrai parce que là encore aussi, on enlève cet aspect-là. Et il est assez important quand même dans la vie et dans le rapport à l'éducation, quoi.
Tout à fait. Oui. C'est en fait, c'est des centres d'intérêt que tout le monde n'a pas dès le départ, en fait, et des stimuli, tout
Alors, n'a
simplement.
pas ou ne peuvent pas avoir, du coup,
On ne
parce que
peut pas, oui.
c'est même souvent qu'ils en sont privés plus qu'autre chose, en fait.
Et qu'en plus, après, enfin, pardon, t'as pas fini, mais.
Non, mais on est là pour aussi s'interrompre, rajouter, peser
Et qu'en
surtout.
fait aussi, c'est que tu as aussi une destruction enfin, je pense, des choses qui pouvaient amener
Oui.
à la culture, l'accès à. Enfin, j'ai bossé quelques années dans le social. En fait, enfin, l'accès à la culture, ça a un prix, en fait, quoi. Et quand tu as des mairies qui sont maintenant affiliées, ou en tout cas qui gèrent leurs centres sociaux ou des choses comme ça, par du partenariat public-privé, on est clairement dans une approche économique des choses. Et amener 30 gosses, voir du théâtre, ou voir de l'opéra, ou je ne sais pas quoi, bah c'est un coût de dingue, en fait. Et que même ça, en fait, y a pas assez de moyens, finalement, pour essayer au moins que les enfants puissent goûter. Alors après, je ne suis pas en train de dire que les gens qui bossent dans le social font un boulot de merde, mais ils le font aussi dans les limites des moyens disponibles, en fait, quoi. Et que c'est marrant, mais pardon, mais ça ricoche un peu sur le sujet que tu avais fait sur les sports d'hiver. En fait,
Oui.
on va emmener les enfants beaucoup plus logiquement, entre guillemets, dans une certaine logique au sport d'hiver, que en fait dans des sorties culturelles une fois par mois, quoi. Et je pense que c'est dommage, parce que fondamentalement, la culture te permet de prendre un pas de recul, de penser, de te construire, de te confronter, là où au sport d'hiver, tu ne fais que jouir finalement d'un plaisir, quoi. Et c'est très bien aussi, mais c'est. En fait, je pense que oui, il y a des objectifs qui ont complètement changé et des moyens qui ne sont plus là, quoi. Et puis on peut même parler des CE dans les entreprises, dans les gros groupes qu'il y avait avant, etc., qui permettaient aussi ça un petit peu, quoi. Enfin voilà.
On invite les auditrices et les auditeurs à réécouter justement cette causerie d'il y a 3 semaines ou 4, je crois. Vous tapez sport d'hiver, ski et la montagne sur le moteur de recherche de la causerie. On parlait justement des CE. Pour revenir du coup à mon sujet, du coup, hein, moi je ne vais pas trop m'étendre non plus sur l'impact du Covid-19, hein, qui, vous le savez, a fait que cette pauvreté est devenue grandissante, hein, car ça serait faire croire en fait que le problème n'existait pas avant et que tout serait apparu en fait depuis un an. Surtout, ça serait oublier qu'en réalité, c'est la conséquence des décisions politiques ou plutôt en fait d'un abandon des pouvoirs publics sur cette population qui sont eux aussi donc des grands oubliés. Le ministère de la Recherche, hein, et de l'Enseignement supérieur est un énorme ministère, hein, mais qui doit gérer quand même pas mal de choses. 10 millions d'étudiants en France, c'est énorme, sans compter la recherche, avec un budget dérisoire, seulement 28 milliards. Contre, par exemple, un ministère, celui des armées, qui voit sa dotation augmenter de 40 milliards, par exemple, qui passe à 40 milliards.
Ouais.
Voilà.
La guerre, il faut croire que la guerre amène plus de bénéfices
Voilà.
que l'enseignement et l'éducation et l'accès au savoir, quoi.
Voilà, en fait, tout simplement, en fait, que ça fait des décennies que ça dure et que la situation se dégrade. Et ça s'est accentué avec le Covid, mais en fait, qui n'est pas apparu avec, il l'a juste révélé, comme on disait justement hier en préparant cette émission. Un peu des bah, mais voilà. Même si donc le Covid-19 l'a révélé, il y a quand même des chiffres qui sont tombés, puisque à la demande du Parlement. Il y a eu un du Parlement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu un rapport parlementaire qui a été demandé, donc qui a été publié justement en décembre dernier, qui nous livre du coup quelques chiffres. Par exemple, un jeune sur six, du coup, lié à la crise du Covid, a arrêté ses études, faute de moyens de pouvoir continuer à payer son loyer, à suivre les cours dont les universités ont fermé leurs portes, où les cours à distance sont devenus de plus en plus compliqués à suivre. Il y a eu 20, près de 22% des jeunes de 18 à 25 ans qui sont en chômage, qui faisaient voilà, qui on revient un petit peu sur la situation d'avant de ces jeunes enfants, de ces jeunes étudiants pardon précaires qui étaient obligés de travailler justement bah, pour pouvoir survivre, qui avaient donc des petits jobs, hein, qui jobaient comme on dit. Avec des contrats très précaires, des petits CDD. Voilà. Et ensuite, un autre chiffre, un tiers des jeunes donc aussi a renoncé à des soins. Alors ça, c'est un chiffre effectivement révélé, mais qui est aussi élevé, mais qui a été aussi élevé dans le passé. Hein. Par contre, sur le soin, c'est quand même une partie en fait de ce que les jeunes ou étudiants en fait renoncent en premier, malheureusement.
Mais c'est dramatique d'ailleurs parce qu'on sait que ne pas soigner le jeune, ça entraîne des conséquences souvent à long terme. Et notamment pour les dents, pour des choses comme ça, où quand on fait pas les soins qu'il faut, bah du coup, d'une carie minime, on passe à faut arracher 5 dents et mettre un bridge, quoi. Et donc, du coup, bah, c'est hyper dramatique de se dire que dans notre société, on a des gens aujourd'hui qui peuvent pas se soigner. Alors, c'est vrai chez les étudiants et ailleurs, hein, et ça, c'est juste inadmissible, en fait, quand on y réfléchit, qu'il y a des gens qui sont obligés de décaler des soins.
Ah oui, tout
Et
simplement.
il y a aussi ce truc sur Je reviens encore une fois à ma propre expérience. J'ai bossé dans le social et ce qui fait que j'ai bossé, j'ai découvert ça avec beaucoup d'étudiants en fait. C'est-à-dire que le milieu enfin, de l'animation, etc., dans les centres sociaux, les centres de vacances ou autres, mais comme aussi, je pense, le milieu de la restauration, des trucs comme ça,
L'aide à la
l'aide à
personne.
la personne, ça regorge d'étudiants, quoi. Et c'est complètement fou parce que, en tout cas, dans le milieu dans lequel j'étais, on exploitait donc déjà la précarité de ces étudiants, parce que si tu es obligé de bosser, c'est parce que tu n'as pas assez de thunes et que tu n'as pas assez de bourses. Et en plus, ben, je veux dire, ils bossaient dans des milieux complètement pourris. C'est-à-dire le social, ils avaient des contrats de 10 heures payés 50 euros. Donc 5 euros de l'heure. Donc on est en dessous du SMIC. Et tout ça est légal. Donc en fait, on en revient toujours à quelque chose. C'est ben, les pauvres, en fait, quel que soit le moment, ils vont servir de chair à patron finalement. Une autre fois, ça serait de chair à canon. Mais il y a vraiment ce truc-là. C'est-à-dire que les pauvres... Bah, s'ils ratent leurs études, bah, ça aura quand même fait 2-3 ans, on a pu les exploiter dans un autre truc, et
Il
puis
n'y
après...
a, y a aucun état d'âme, en fait. Et
Ah,
d'ailleurs, il faut
mais...
rajouter que les étudiants, la plupart d'entre eux, en fait, vont en soi travailler pendant ces études, ça peut être quelque chose de bien. Mais si c'est lié à tes études, ça peut être bien. Mais beaucoup, justement, font du boulot. J'allais rajouter aussi quelque chose qui est censé être illégal, par exemple, c'est de travailler pendant les heures où on est censé être en cours. Justement, les étudiants font des choix de cours magistraux qui ne sont pas obligatoires, contrairement à des TD ou à des travaux, à des, il y a d'autres cours qui sont obligatoires. Il y en a, pour pouvoir en fait avoir des heures, puisqu'effectivement beaucoup d'étudiants sont sur le marché du travail et peu de place, bon, ben, on se bat pour pouvoir grappiller des heures et travailler pendant leurs heures de cours.
Ouais.
Juste au détriment, ben, voilà, de plein de choses,
Mais oui, et
de
que
leurs études.
là aussi, il y a une question de classe en fait qui devrait se poser. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'on arrête de faire la masse, les étudiants. En fait, enfin, les
Oui.
étudiants, c'est plein de gens différents avec des parcours très différents, des niveaux sociaux très différents, etc., etc. Et ce qui fait que je pense qu'un enfant de famille plutôt très aisée n'aura pas à travailler. Et c'est tant mieux pendant ses études. Mais ce qui fait qu'en fait, on continue, on perpétue cette hiérarchie sociale, en fait. C'est-à-dire que les riches vont bien s'en sortir et les pauvres, ben, ils vont devoir en chier 3 fois plus, devoir bosser, devoir pour pouvoir avoir juste accès à quelque chose qu'on dit que c'est accessible à tout le monde. Sauf qu'en fait, c'est toujours dépendant de tes moyens, finalement.
Oui, bien sûr. Et puis bon, là, effectivement, là, sur mon sujet, je dis les étudiants, mais même si j'avais précisé au départ, ça concerne effectivement les étudiants en précarité. Et effectivement, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, c'est sûr ils doivent tout passer. La solution, effectivement, serait des bourses qui devraient être attribuées, qui leur permettraient justement de ne pas justement travailler, d'avoir un boulot à côté, sauf si nécessité et que ce soit lié à leurs études. Moi, je ne sais pas, un étudiant infirmier, parce que voilà, je connais ce milieu-là, qui pourrait bosser en tant qu'aide-soignant, mais parce qu'il y a une corrélation et ça commence à lui faire de l'expérience. Mais voilà. Mais effectivement, il ne faut pas faire de grands ensembles, comme tu
Ah non,
dis.
mais
Et
c'était pas de toi que je parlais, hein. C'est vraiment
bien sûr, bien sûr.
dans nos angles de lecture, dans nos modes de lecture, on aime bien faire des grands ensembles.
Je vais continuer.
Allez, vas-y,
J'ai encore des chiffres à donner. Non,
vas-y.
malheureusement. Toujours des chiffres de ce rapport, donc liés au Covid. C'est les addictions aussi, malheureusement, je veux dire, qui ont augmenté 31%. Donc, toutes les addictions, hein, aux jeux, pouvoir gratter, trouver le million par exemple, tout ce qui est substances illicites, l'alcool et puis le tabac. On en parlait hier, mais tout ce qui est l'aspect psychologique aussi, un tiers de moins des 30 ans, du coup, une demande en recrudescence de rendez-vous en psy, sur le mal-être, sur des états de dépression, sur des envies de suicide, hein. Même du coup en parallèle, il y a des lignes d'écoute qui se mettent en place, notamment un service d'aide qui s'appelle le Nightline, qui du coup a vu ses consultations augmenter de 40%. En fait, c'est une ligne gratuite, hein, assurée donc par des étudiants, pour les étudiants qui répondent en fait aux appels et aux messages de détresse et de solitude, en fait, voilà, des étudiants, est ouverte chaque soir de 21 h jusqu'au milieu de la nuit. Il y en a plein encore, ces lignes d'écoute. Là, j'ai pris cet exemple-là. Mais tout ceci, en fait, voilà, dépeint un tableau très peu justement, voire alarmant de la situation. Et en fait, en allant plus loin, donc il y a une conséquence aussi de cette situation, c'est, on en parlait un peu, l'IA, c'est une prostitution étudiante qui existe en fait déjà depuis longtemps, hein, mais qui est en nette augmentation. Alors là, j'ai pas réussi à trouver des chiffres en France, voilà, mais selon une étude, mais qui doit facilement se transposer en France, c'est une étude de bruxelloise qui explique en fait, non pas sur des chiffres, mais sur le pourquoi, c'est qu'il traite donc des nouvelles formes de prostitution qui dément en fait le mythe d'une jeune prostitution d'agrément. Et en fait, qui souligne que en fait, dans 30 à 50% des cas, c'est bien la précarité en fait qui pousse les étudiants rencontrés à la prostitution. Et ce recours à la prostitution est plus fréquent en cas d'isolement, de rupture avec les liens familiaux et sociaux, et également en cas d'éloignement des services sociaux et de déconnexion progressive de la réalité, en fait.
Non,
Donc en fait, la
on n'est pas dans le cadre d'une prostitution choisie du tout, on est dans le cadre d'une prostitution subie du fait de la pauvreté.
Bah oui, tout à l'heure, elle s'appuie en fait sur la précarisation grandissante des étudiants et étudiantes. Du coup, c'est vrai que c'est des sujets dont on avait parlé, en tout cas, on en avait abordé effectivement avec ces fameuses, je crois, publicités qui étaient pour pouvoir en fait rendre des services à la personne, mais qui est en fait de la prostitution
Sur les
déguisée,
sugar
mais qui
daddy.
était. Voilà, exactement, mais destinée uniquement aux étudiants pour aider à financer leurs études.
Il y a toujours des profiteurs, quelle que soit la situation.
Ah bah, toujours, toujours, toujours. Et puis, bah, je vois que l'heure tourne, hein, malgré tout,
Oui.
même si on n'a que deux sujets. Voilà, nul doute que voilà, pour sortir donc l'étudiant de sa condition précaire, en fait, il faut de grands changements et voilà, qui doivent être opérés au plus vite, hein, commencer par un changement de mentalité, effectivement. Il ne suffit pas de donner des sous pour l'année 2021 pour essayer de donner plus de boîtes de conserve et de boîtes de lait à des banques alimentaires pour qu'ils puissent manger à leur faim pendant cette année et puis ensuite oublier tout ce. Quand le Covid-19 sera derrière nous. En fait, il faut vraiment une mentalité et puis des solutions à long terme. Une réflexion globale sur la jeunesse et le statut étudiant doit être vraiment remanié de fond en comble. C'est l'enseignement et son mode de fonctionnement tout entier, donc voilà, qui doit être repensé. Et puis, en fait, voilà, j'allais dire, c'est peut-être une phrase un peu de vieux, mais je vais quand même la dire. La jeunesse est notre avenir, en fait.
Mais oui.
Non, mais c'est vrai. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours fait sourire, c'est quand les gens disent, mais on ne peut pas faire plus pour les étudiants. Alors, tu parlais justement du ministère des Armées. C'est quand même merveilleux parce qu'on a quand même un ministère qui arrive à nourrir, loger, blanchir des centaines de milliers de personnes partout dans le monde pour aller faire la guerre. Alors, des fois, ils sont même juste dans des casernes juste pour attendre de faire la guerre. Mais moi qui ai fait l'armée, j'ai vu quelle était la logistique qu'il y avait derrière. Et c'est énorme. Je veux dire que il y a une capacité, en fait, enfin, les militaires, je vous rassure, ils ne mourront jamais de faim. Hein. Ça, voilà, ils manqueront jamais de toit sur leur tête, tout va bien. Et en fait, bah, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas tout simplement à mettre le même type de logistique, mais pour quelque chose de positif? C'est-à-dire de permettre aux gens de faire des études dans des bonnes conditions. C'est-à-dire bah, fournir un logement décent, correct, dans lequel on est bien, fournir 3 repas par jour et leur permettre de faire des études correctes. En fait, ça ne coûterait pas excessivement cher, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Ça coûterait même sûrement moins cher que de faire des partenariats publics-privés en permanence pour faire vivre les facs. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on peut poser tout de suite, sans dire de partir. Je ne parle pas de révolution, de sortir du capitalisme ou quoi que ce soit. Là, je parle juste de poser les choses telles qu'on pourrait les faire aujourd'hui. Moi, je pourrais faire mieux et autrement. Mais voilà. Et ben, en fait, j'aimerais bien un jour que ce débat il soit mis sur la table, parce que c'est quand même dingue de se dire qu'on arrive à nourrir des militaires en permanence, à les loger, à les habiller, parce que je vous rappelle que les militaires ils sont même
Ah bah ça
habillés.
connaît pas la crise, hein, ils feront jamais de
Voilà.
banque alimentaire.
Et que pour les étudiants, et pour même, et en plus, je pense que ça ouvrirait la possibilité à plus de monde de faire des études, en plus, ça enlèverait cette fameuse inégalité de départ. Et pourquoi on n'arriverait pas justement bah, à se dire, OK, bah, toute personne qui veut faire des études, elle peut les faire, et elle aura 3 repas par jour garantis et un toit sur la tête. Je suis désolé, ça ne me paraît pas impossible à faire. Et c'est juste une question de volonté et de savoir sur quoi on veut miser. Et moi, je préférais qu'on mise sur, comme tu le disais, MK, sur l'avenir et sur les jeunes, plutôt que de miser sur la bombe atomique et le fait d'aller péter la gueule du voisin.
Ouais,
Voilà.
on est d'accord.
Okay.
Il y a plein, il y a tellement de trucs encore à dire, mais on va faire 1 heure, donc ça sert à rien.
Ah, mais oui, mais on pourra en reparler justement, et puis ça peut être
Ouais.
un autre sujet. C'est comme
Il y a aussi la
sujet
précarité,
vaste, hein.
l'accès aux produits d'hygiène,
Ouais, tout à
l'accès
fait.
Enfin, aux serviettes, aux
Oui,
tampons, il y a ce
j'en ai
ministre.
pas parlé, effectivement,
Non, non, mais il y a le
effectivement, tous
porte-parole aussi du gouvernement qui parlait de faire un credard aux jeunes étudiants plutôt que quoi, de filer de la thune sans avoir à rembourser. Enfin, il y a des trucs, c'est complètement fou, quoi. Mais oui, ça, on en aurait pour des heures, quoi.
Et on reviendra sur le sujet.
Sûrement.
sûrement.
On passe à
Des
la
petites...
musique?
Ouais.
Allez, ça
Allez,
marche.
let's go. De retour ou toujours à l'écoute, on l'espère, de la causerie sur Radio Canu. Et on vient de s'écouter Yiddish Polka et c'était interprété par Klezmir, un petit groupe strasbourgeois que j'apprécie beaucoup et que je vous invite à aller écouter. Eh bien, je crois que c'est Fab qui prend la suite. Et toi, tu
Oui.
vas nous parler de la jalousie et de son utilisation.
Ouais, c'est ça, mais je vais vous parler d'un phénomène plus particulier autour de ce mot de jalousie. Et je reviendrai sûrement dans la causerie sur la jalousie au sens large, mais pour l'instant, je vais plutôt focaliser sur quelque chose. Alors, avant d'aller plus loin, je vais commencer par vous rappeler ce que le dictionnaire appelle jalousie. Alors, pour pas faire de jaloux, j'ai fait un mix entre le Robert et le Larousse. Voilà. Mais les deux définitions sont à peu près les mêmes. Donc, la jalousie, je vous le rappelle, c'est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou ce que l'on voudrait avoir. Voilà. Cela s'accompagne souvent d'hostilité et de dépit.
C'est
Voilà.
être envieux.
C'est être envieux, la jalousie. Voilà. Ça, c'est le premier sens. Et le sens numéro 2 qui est donné à jalousie, hormis le sens numéro 3, c'est des persiennes qu'on met aux fenêtres, mais ça n'a aucun intérêt. Mais le sens numéro 2, c'est amour exclusif exigé. Voilà. Donc ça, c'est les définitions françaises du mot jalousie. Voilà. Maintenant, oui, exiger, c'est important, la notion
Ouais,
d'exiger.
c'est qui exige, c'est qui
Ah ben, c'est
accepte
le
un peu.
jaloux ou la jalouse,
Oui,
parce que
c'est.
c'est relié au sentiment. Donc voilà, maintenant qu'on a posé les mots, on peut continuer tranquillement. Donc, bah, il y a un petit truc qui se passe en ce moment, vous avez peut-être remarqué, c'est que je pourrais vous faire une thèse sur la jalousie, mais je ne vais pas le faire, mais vous avez quand même dû remarquer qu'il y a un sentiment qui est bien remis en avant, c'est ce fameux sentiment de jalousie. Si vous avez fait un peu attention aux propos qui sont tenus dans les médias en ce moment, c'est un mot qui revient un petit peu, qui semble être un petit peu à la mode quand même, voilà, ce mot de jalousie qu'on entend à droite à gauche. Alors, on en avait déjà parlé dans la causerie, en particulier le 8 juin 2014, oui, le 8 juin 2014 exactement, quand Jean-Yves nous avait parlé de La Salope Éthique, un excellent livre que je vous invite à lire, ou même d'ailleurs d'aller réécouter la causerie du 8 juin 2014, vu qu'on a remis un lecteur. Je n'ai pas non plus vous parler de l'envie et de la jalousie liée à autre chose que les relations humaines. Genre, on pourrait faire un grand débat sur l'envie d'avoir ce que l'autre possède, tout ça. Ce n'est pas mon propos ce soir. Je pourrais, on a déjà en plus abordé le thème plusieurs fois dans l'émission, hein, au travers des explications et des discussions, et notamment quand on parle du capitalisme, hein, parce que l'un des moteurs du capitalisme, c'est la possession et la jalousie. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Non, ce soir, je vais vous parler de comment cette notion, ce sentiment, est aujourd'hui remis à la mode pour contrer en fait les mouvements féministes et de libération de la parole. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais je vais vous expliquer pourquoi j'affirme ça, et vous serez en droit de ne pas être d'accord avec moi à la fin. Voilà.
C'est gentil.
Donc, c'est en ce moment le grand retour de la fameuse femme infidèle. Hein, je vous ai remarqué, mais alors qu'est-ce qu'on nous la resserre à toutes les sauces ? Comme vous le savez, hein, les séries de révélations actuelles et les questionnements autour du patriarcat ébranlent les pauvres petites choses que sont les machos et les masculinistes. Hein. En gros, ça, vous avez remarqué qu'ils sortent vite du bois quand même. Hein. Les voilà vent debout contre cette société qui se féminise et autres bêtises glauques qu'ils peuvent sortir. Voilà. Alors, si vous voulez quelques bêtises glauques, bah, vous mettez une chaîne comme CNews pendant 3 minutes à peu près et vous devriez vomir. Mais enfin, bon, voilà, voilà. Surtout si vous choisissez la bonne heure. Donc, d'abord attaqué en frontal hein, par ces mous du cortex que sont les masculinistes, c'est aujourd'hui, il y a une technique plus subtile qui fait son chemin pour contrer en fait cette vague féministe, comme certains l'appellent. Moi, j'appelle ça juste l'égalité qui se met en place. Hein, voilà. Et en fait, ce chemin, c'est revenir à l'éternel féminin. Vous savez, ce fameux éternel féminin défini, hein, rappelons-le, par le patriarcat quand même, hein, faudrait peut-être pas l'oublier, et donc par les hommes. Hein, voilà. Et donc cet éternel féminin, je vous le rappelle, il est mesquin, vénal et jaloux, évidemment, parce que sinon ça ne marcherait pas.
Voilà. C'est pas en lien, excuse-moi de t'interrompre, avec le péché originel, par
exemple ? Oh non, penses-tu ? Ça en fait partie. C'est toute la panoplie des conneries qui ont été racontées, ça en fait partie. Voilà, c'est là aussi. Voilà. Hein. Voilà. Alors vous allez me dire, mais que vient faire la jalousie là-dedans ? Parce que après tout, figurez-vous que selon les masculinistes. Et attention, les masculinistes, il y a des femmes masculinistes, hein, je tiens à vous le rappeler.
Il n'est pas les tradi-wife, des trucs.
Par exemple, à la télé, vous avez un bel exemple avec une femme comme Elisabeth Lévy, par exemple, vous l'écoutez, c'est une masculiniste profonde. Et voilà, et il suffit de voir que c'est malheureusement pas genré, je préférais que ça le soit. La jalousie des femmes est la raison, en fait, pour d'après eux, de la violence des hommes. Voilà, tout simplement. Oui, vous ne rêvez pas. Ainsi, pour eux, hein, pour les masculinistes, si les hommes sont obligés de sévir au foyer, que ce soit verbalement ou physiquement, bon, généralement, ils n'osent pas parler du physiquement, ils parlent du verbalement, hein, voilà, c'est à cause de ces méchantes femmes, ou oserais-je dire, de leur point de vue, de ces femelles, qui sont trop suspicieuses et excessives, quand ils ne parlent pas d'hystérie, hein, voilà, avec ces pauvres petits bougres tout fragiles que sont les hommes. Voilà. Et je vous jure que ce discours-là, eh ben, on l'entend de plus en plus. Et c'est assez étonnant, sauf que ce n'est pas surprenant. Il y a plusieurs universitaires dans le monde, majoritairement des universitaires femmes, qui ont quand même remarqué que ce discours était porté surtout sur les chaînes de radio et télévision réactionnaires. C'est marrant. Sauf qu'aujourd'hui, dans le monde, ces chaînes représentent 55% des audiences. Donc, il ne faudrait pas minimiser l'idée que c'est important, ce discours, il est porté quand même globalement et très fortement auprès de 55% du public. Ce n'est pas non plus des gens qui regardent la télé ou écoutent la radio. Donc, a priori, pas des gens qui écoutent Radio Ken. Bon, normalement. Donc, c'est une image en fait qui est construite de longue date, hein, depuis des centaines d'années, dans les livres, les films. Alors, MK, tu parlais du péché originel. Voilà un livre qui a tout à fait posé les bases de ce fameux…
Tous les livres, hein. Tous les livres.
Hein. Oui, tous ceux qui sont sur l'Ancien Testament, hein, donc Torah, Coran, Bible, hein, mais il y en a d'autres, hein, il y a aussi les romans, il y a aussi tout ce qui a été écrit, dans les films aussi, dans les séries, et même dans pas mal d'émissions de télévision, le rôle de méchante jalouse est systématiquement dévoué aux femmes. D'ailleurs, même dans les séries réputées plus féministes, comme par exemple Desperate Housewives, dont tout le monde parle énormément, eh ben on n'échappe pas à ce cliché de la femme jalouse et excessive. Si vous regardez bien dans cette série, les hommes sont souvent, même généralement, victimes des femmes, parce que eux, finalement, ça va, ils sont pas trop. Hein, bon. Logique, hein, quand on sait que la plupart des scénaristes, auteurs, peintres et autres sont, et qui ont été mis en avant, sont avant tout des mâles, des hommes. Donc forcément, c'est le discours plutôt patriarcal qui, depuis des siècles, met au goût du jour l'idée de cette femme quand même pas très très fiable et extrêmement jalouse et possessive et castratrice, tout ça, vous voyez.
En fait, quelles que soient les situations, la femme est toujours la responsable. C'est ça, en fait.
Voilà.
Non, mais parce que dans tout ce que tu dis, alors bizarrement, ça me faisait un parallèle avec quand des femmes subissent un viol, elles l'avaient un peu cherché.
C'est
On
exact.
trouvera toujours une raison qui
La
justifie.
tenue.
Voilà, non, mais c'est exactement ça, quoi.
MK?
Ouais, non, mais en fait, voilà, je vais réagir et rebondir sur ce que disait Jean-Yves. En fait, on cherche maintenant à justifier des actes de violence et à minimiser l'impact de ce que ça pourrait être. Et puis, est-ce que ce serait pas quelque chose qui serait à contre-courant de cette montée de ces fameux hashtags, de cette augmentation des dénonciations du féminicide, où justement, où la parole des victimes, qui on l'espère, va aller de plus en plus loin? Bon, on n'essaye pas de faire un retour en arrière et de les faire taire,
Mais
de justifier la
exactement,
violence. Et ça sera quoi
exactement.
demain, la violence sur les enfants? Que ce soit le papa et la maman qui ont cette autorité forte, c'est normal parce que je crois qu'il y a eu la fameuse fessée qui a été interdite maintenant, mais en fait, on revient en arrière totalement là.
En fait, leur but, c'est de revenir à leur éternel monde de domination à eux, en fait. Hein. C'est plus
Voilà.
ni moins que ça. Alors, et c'est assez rassurant hein, pour les dominants de renvoyer justement aux dominés la cause de leur mal-être. Freud l'avait bien compris quand il a construit via la psychanalyse les pires clichés enfermant autour des femmes, ces êtres bizarres et à dompter, selon lui. Vous voyez, c'est quand même, hein, on voit que c'est ancré même dans la psychanalyse aujourd'hui. En grande, alors, pas tous les psychanalystes,
Non, mais
mais c'est sur la base de la psychanalyse.
exactement.
On le voit, c'est bien en s'appuyant sur une construction sociale favorable à leur thèse, construite par les hommes, que les masculinistes cherchent à briser, comme tu le disais MK, le mouvement qui les remet en question. Autrement dit, les possédants de pouvoir montrent du doigt les opprimés pour mieux nous expliquer que c'est tout la faute des opprimés. Voilà.
Non, mais et ça, en fait, rien que cette logique-là, elle fonctionne avec plein de sujets.
Ah, il y a plein d'oppressions, hein, c'est
Plein
pas propre.
d'oppressions et plein de. Oui, c'est exactement
J'ai
ça.
pris l'exemple de la jalousie parce que justement, aujourd'hui, très souvent, c'est cette idée-là qui est mise en avant. C'est la femme jalouse, la femme suspicieuse, la femme qui enferme. Sauf qu'en réalité, ça n'a pas de réalité sociologique. C'est-à-dire que toutes les études qui ont été faites démontrent que ben non, les gens qui se font tuer, c'est pas parce qu'ils étaient jaloux, c'est juste parce que l'autre voulait le tuer. Voilà. Et que c'est pas autre chose que ça qui est derrière. Il n'y a pas de construction. Alors vous l'aurez remarqué, hein, pardon.
Je dirais, si, il y a une construction, c'est celle de la personne qui tue, qui pense posséder
Oui,
l'autre, en
pardon, je me
fait.
suis mal
Non,
exprimé.
non,
Oui,
mais c'est.
t'as
Oui.
raison, tu as raison. Donc, vous l'aurez remarqué, les affaires de violence conjugale, de viol, de harcèlement et autres sortent fortement ces jours-ci. Hein. Et la démonstration est faite que le patriarcat est un des piliers les plus importants de la domination mondiale. Et forcément, quand on est montré du doigt, ben, on réagit. Hein. Mais l'angle d'attaque qui prévalait ne fonctionne plus ou moins bien. Difficile de dire qu'elle l'avait cherché, même si certains essayent de faire ça. On voit que ça marche plus, surtout que maintenant, ben, les victimes, elles parlent. Et donc, quand elles parlent, elles expliquent ce qui s'est passé. Et c'est compliqué d'expliquer qu'on l'a cherché quand on a été enfermé pendant 15 ans dans une maison et qu'on n'avait pas le droit de sortir et qu'on était battu tous les jours, par exemple. Vous voyez, c'est un petit peu, je prends un cas qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, il fallait ressortir du placard les vieilles thèses et revoilà donc l'hystérie et la jalousie, et surtout la jalousie qui est remise en avant au goût du jour, je ne sais pas comment dire. Et la voilà donc remise à toutes les sauces. Si elle parle de viol, c'est qu'elle est jalouse de sa carrière, à l'homme qui l'a violée, évidemment. Hein. Si elle se plaigne, c'est qu'elles sont jalouses de la réussite des mecs. Hein, évidemment, c'est pour ça qu'elles se plaignent, sinon elles se ferment à leur gueule. Hein, voilà. Eh bien, on en est là, parce que si vous écoutez le petit discours, c'est exactement ça. Je ne reviendrai pas sur quelques acteurs célèbres qui sont en ce moment montrés du doigt pour avoir vraisemblablement commis des actes de viol. Et où les premières personnes viennent les défendre en expliquant que, mais vous êtes sûr que ces femmes, si elles disent ça, c'est pas parce qu'elles sont jalouses, parce qu'elles aussi, elles étaient actrices et qu'elles n'ont pas autant de rôle qu'eux. Bah, je suis pas sûr que ça tienne, mais vous voyez, la jalousie, elle est remise en avant. C'est ce truc-là qui sort. Voilà.
Mais ils assènent un discours.
C'est un discours.
Toujours.
Ça, voilà. Pire, on a pu entendre que s'il l'a tuée, c'est qu'elle était jalouse et hystérique. Et ça, c'est notamment dans une affaire célèbre Duval, je crois ça, où on a quand même un avocat qui est venu expliquer tranquillement que ben, c'est pas de sa faute s'il l'a tuée, mais bon, alors, quand même, elle était jalouse et hystérique. Alors que tous les témoignages des amis, des proches, de la famille de cette femme expliquent que non, elle n'avait jamais exprimé d'être jalousie, d'envie ou de choses comme ça,
Combien
même qu'elle.
même?
Hein?
Combien même?
Oui, et voilà ce que j'allais dire. Et j'avais même venu la tuer. Et combien même lutte elle était, ça ne justifiait pas de la tuer. Je veux dire, donc voilà. Mais
Me rassure de me dire, en disant ça.
non,
Ça,
non,
j'ai
mais.
cru à un moment donné que tu allais dire, bah si, ça justifie. Elle n'était pas jalouse en vrai, mais pour elle, elle l'était. Donc oui, il a eu raison.
Non, pas du tout. Mais c'était pour dire que ce discours-là, justement, il est difficile à déconstruire si on le prend pas frontalement, justement, si on ne dit pas, non, mais même si elle avait été jalouse. Mais qu'est-ce que ça change? On ne tue pas quelqu'un juste parce que la personne est jalouse. C'est un peu fou, quoi. Donc voilà. Cette petite musique, elle va loin et elle a un poids de plus en... C'est un poids de plus qui est mis sur les épaules des victimes. Parce qu'aujourd'hui, et je prends notamment le cas, j'ai pris quelques hashtags de gens qui parlent anonymement et on se dit, si on parle anonymement, c'est souvent parce que justement, il y a ce poids-là et qui commencent en fait leur témoignage en disant, ou le finissent en disant, je n'ai rien. Je n'envie rien de la part de mon bourreau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est terrible d'écrire ça. Parce que ça veut dire que cette petite musique et ce discours commencent à entrer, à être un poids supplémentaire sur les épaules des victimes, qui se retrouvent à être obligées de justifier le fait que non, non, c'est pas par jalousie que j'écris ça, c'est parce qu'il m'est vraiment arrivé quelque chose. Donc c'est encore une façon de délégitimer et de faire taire les femmes, majoritairement les femmes, il y a aussi quelques hommes, qui parlent et qui expriment ces choses-là. Donc en fait, le fait de renvoyer les victimes, même quand les victimes d'ailleurs sont des hommes, ils sont systématiquement renvoyés à des travers vus comme féminins. C'était des hommes pas assez virils, qui aimaient trop leur maman, qui quand même, c'était bizarre, ils aimaient aller à l'opéra trois fois par semaine. Tout ça, c'est des choses que j'ai lues sur des témoignages d'hommes qui parlaient de violences qu'ils avaient subies et où on venait leur répondre, oui, mais quand même, bon, il y a un truc bizarre là. Ben non, il n'y a rien de bizarre, je veux dire. C'est juste que vous êtes encore en train d'essayer de vous servir d'une vision patriarcale pour essayer d'expliquer que bah, la victime, elle l'a un peu cherché quand même. Hein. C'est toujours, on en vient toujours à ce truc-là. Cette façon de faire, elle a donc pour but d'empêcher la société de changer en profondeur, mais surtout de maintenir en place ceux qui ont une position de pouvoir. Et dans notre monde, ce sont très majoritairement les hommes, tout simplement. Et désolé, hein, il faut le dire, hein, je sais, ça fait mal aux masculinistes, mais ça fait. Hein. Donc voilà. Donc il faut dépasser les clichés. La jalousie, elle existe. Attention, mon propos n'est pas de dire que la jalousie n'existe pas ou que voilà. On peut aussi ressentir de la jalousie sans être soi-même un oppresseur. Ce n'est pas du tout mon positionnement. Sauf que la jalousie, elle est l'apanage souvent, malgré tout, des oppresseurs. Parce que c'est une jalousie qui les taraude. C'est le fait, en fait, d'être jaloux de la façon dont l'autre vit, dont l'autre pourrait être plus libre que lui, dont l'autre pourrait être différent. Vous voyez ce que je veux dire? Le maintien du pouvoir et le fait de vouloir maintenir une société, ça relève de l'envie de maintenir une société. Et l'envie, c'est relié à la jalousie. Donc en fait, les gens qui utilisent cette espèce d'artifice pour essayer de renvoyer aux victimes les choses, en réalité, ce sont ceux qui sont les plus jaloux, au sens premier du terme et de la définition que j'ai donnée, et qui justement se servent de ce sentiment-là pour oppresser les gens. Donc voilà. Et encore une fois, je dis, tous les gens jaloux ne sont pas des oppresseurs, mais la majorité des oppresseurs le sont. C'est dans ce sens-là qu'il faut le poser. Alors, voir aujourd'hui ceux qui sont finalement les plus jaloux, les plus envieux, renvoyer alors retourner contre les victimes cette notion, bah, ce n'est pas vraiment étonnant parce que c'est ce qui est fait depuis, comme diraient les historiens, la nuit des temps. Voilà, donc. La position, pardon, d'une position sociale favorable ou du corps de l'autre sont des moteurs immondes de notre société, finalement, quand on regarde bien. Ce n'est pas juste un détail, mais bien par l'instinct de possession que le capitalisme et le patriarcat se maintiennent. Et si on regarde, c'est vraiment ça qui est derrière. Donc, le dépasser et détruire la jalousie, ça passera par le fait de l'identifier clairement et de sortir des clichés autour de ce sentiment, et notamment les fameux clichés de la jalousie, c'est que les femmes, parce que Ève, elle a mangé une pomme. Voilà.
Elle a été tentée.
Voilà, je voulais juste poser ça. Alors, je reviendrai peut-être plus en long plan sur la jalousie et sur ses conséquences dans la vie de couple, tout ça. Mais là, je trouvais que ce retour-là et cette utilisation-là dans ce contexte-là est quand même assez flippant et met encore une fois une pression énorme sur les victimes, ce qui est totalement dégueulasse. Voilà.
C'est fou. Hein. On aura du mal à combattre tout ça. Hein. De là,
je suis
en train de penser, je me dis... On pense que ça va aller mieux, que justement, avec tous ces hashtags qui viennent, et avec la libéralisation de la parole et tout. Et là, tu dis, punaise. Et bien, tu as des gens, en fait, qui viennent contre-attaquer tout ça, quoi.
Bah,
ils mettent à mal, en fait, et toutes ces avancées, malheureusement, quoi.
C'est leur idéologie.
Ils ont gardé leur base solide, quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un mouvement mondial, parce qu'il n'est pas propre à la France, il est mondial ce mouvement, avec une espèce de poussée vers l'égalité. Et vraiment, on sent que ça vient de partout. Il y a même un hashtag MeToo au Koweït, quoi. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se fait, et c'est très bien, moi je trouve ça très positif. Sauf qu'il ne faut jamais oublier que l'internationale des réactionnaires, elle existe, et qu'elle aussi, elle va aller dans l'autre sens, et qu'elle aussi, elle veut maintenir les positions de pouvoir, et qu'elle, elle ne veut pas que la société change, et qu'elle aime bien l'idée que la femme, elle fait le ménage, et qu'elle va aussi travailler. Qu'elle a une double journée, que j'en ai rien à foutre, moi je veux ma bière quand je rentre. Vous voyez, voilà. Et ça, je fais dans le cliché volontairement, mais sauf que ça, c'est une réalité vécue constante aujourd'hui pour plein de gens dans le monde, en France comme ailleurs. Et donc, du coup, bah oui, ces personnes-là, elles vont réagir et elles vont être dans la réaction face à ces sorties-là. Et ils utilisent tous les moyens. Ça a commencé par l'attaque frontale, mais ça a commencé à ne plus prendre parce que justement, les choses rentraient dans le détail, les témoignages étaient dans le détail. C'était compliqué du coup pour eux. Bah, on va revenir à la bonne vieille méthode, celle de la culpabilisation des femmes. Voilà. Et c'est horrible, mais sauf que ça passe par cette espèce de truc-là. Voilà.
Ouais.
Il y a du boulot.
Voilà, c'est pas gagné, mais on le savait déjà.
Et... Mais on continue, il y a du boulot, mais bon.
Ça.
Plus il y a d'arbres à abattre, plus il faut de haches. Allez, musique.
I'm in love with your honor.
Merci d'être resté à l'écoute de La Causerie ou de nous rejoindre. Allez savoir, on ne sait pas trop. Et donc, c'est La Causerie au 102.2 sur RadioCanu.org et on vient d'écouter Bon Iver avec Blood Bank. Voilà, un titre que j'aime beaucoup. Bah, c'est pour ça que je le passe d'ailleurs.
Oui, c'est un peu le principe. je ne sais pas, tu avais un truc à annoncer.
Oui, je voulais juste rendre hommage à une grande de la radio qui est décédée, je crois, il y a quelques jours de ça, et qui s'appelle Isabelle Dordain. Alors, ça ne va peut-être pas vous parler, mais c'est quelqu'un qui présentait le Pont des artistes sur la radio publique. Et pourquoi je voulais lui rendre hommage ? Parce que c'est une des voix qui m'a donné envie à moi de faire de la radio, et que des fois, c'est bien de rendre hommage aux voix qui vous ont donné envie d'eux. Et puis surtout, parce que je trouve que quand il y a un homme qui faisait de la radio qui meurt, on fait beaucoup d'autres choses sur eux. Et quand c'est une femme et qui pourtant a révélé un paquet d'artistes, allez voir Pont des artistes, le nombre d'artistes qu'elle a révélé, et notamment des gens qui aujourd'hui font des grandes carrières et qui ne sont même pas foutus de lui dire merci, et ben ça vaut le coup quand même de lui rendre hommage, parce que c'était quelqu'un qui avait l'amour des artistes et de la musique et de la radio. Donc ça fait trois amours qui sont plutôt sympas. Voilà. Donc c'était Isabelle Dordain qui nous a malheureusement quittés assez jeune. Voilà.
Ok, et je crois que cette semaine, en info un peu militante, il y a Genepi qui fait des choses autour du milieu carcéral. Vous allez sur Rebellion, vous trouverez des informations.
Je crois que ça commence samedi prochain, il me semble.
C'est possible, je ne sais plus, mais voilà. Si vous avez encore envie de faire tourner vos méninges, et puis de toute façon, on peut toujours faire tourner ses méninges.
On peut aussi faire tourner sa machine, mais ça n'a rien à voir.
Oui, c'est ça. Je ne comprends pas, mais il est temps, je pense, d'aller vers la fin de cette
émission. Ouais, ouais.
C'est le début de la fin.
On va vous réveiller avec un dernier titre, là.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est MK qui a fait une sélection.
Une sélecta de MK.
Oui, alors j'avais beaucoup de mal. Je me suis dit, tiens, je vais mettre un titre. C'est effectivement, alors moi, je suis très mainstream, malheureusement. Heureusement ou malheureusement, c'est vous qui voyez. Non, sur les Daft Punk, bon, qui se sont séparés, hein, qui ont signé leur épilogue il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, alors là, ce n'est pas un hommage parce que ce n'est pas du tout ça, ils sont encore en vie, ils continuent leur vie et ils ont bien raison. Un titre qui reprend trois titres en fait, un mix en live de Television Around the World, et Harder, Better, Faster, Stronger. Voilà, c'est ce titre que je voulais vous mettre passé. Et on finit du coup sur ce titre. Et puis nous, on se dit... À la semaine prochaine.
Ok, très bien.
Non, c'est pas ça.
Attends, Clara, elle émerge, elle peut pas.
Oui, il faut préciser que.
Voilà.
Clara est très bien.
On taira les coulisses.
Clara est très bien installée quand elle fait des vidéos à distance. Elle a raison. Voilà.
Ben oui, tout est dans le confort en fait. Pour bien écouter.
Des c'est idées vrai. À prendre pour le quand toute la vie normale reprendra. Il faudra élargir les murs, pousser les murs de la radio. Poser voilà. Des canapés, des lits, quoi.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous à
bon
tous
courage,
et à toutes.
Des bisous, ciao. Et
bon courage. Ciao.
Ciao. Salut. Television rules the nation. Television rules the nation. Television rules the nation. Around the world. 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 Yeah.
Thank you.